Chez Auchan, on sait que les meilleurs produits méritent d'être au meilleur prix. Et ça tombe bien. Pendant le mois des tops, nos petits prix à déguster à la vapeur en salade ou sauté Origine France sont à 1,89€. Et oui, jusqu'à ce soir, le filet de 2,5 kg de pommes de terre de consommation blonde nouvelle récolte filière Auchan Cultivons le Bon est à seulement 1,89€, soit 76 centimes le kilo. Auchan, avec plaisir. Origine France, catégorie 1, calibre 35-55, variété Jazzy, Annabelle et Angélique. Valable dans vos magasins et dans vos champs participants.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Et nous y sommes, il est 6h08. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve comme chaque week-end sur RMC, pour votre rendez-vous avec les meilleurs experts de France. Le week-end des experts, c'est maintenant, chaque samedi et dimanche, 6h, 10h, demain, 3h d'auto avec Jean-Luc Moreau. Juste avant, ce sera De quoi je me mail. Tout à l'heure, entre 9h et 10h, votre rendez-vous tech avec Raphaël Grabi qui sera à mes côtés. On va vous donner des conseils pour que vous trouviez un logement, vous qui êtes étudiant à quelques jours de la rentrée universitaire. Vous verrez que là encore, grâce au web et grâce au smartphone, on a des outils géniaux pour trouver encore plus facilement. Dans notre rendez-vous santé avec Christian Ekia, on va inciter les enfants, nos enfants, à se mettre au sport. Pourquoi ne pas les inscrire par exemple dans des clubs ou d'autres associations sportives? Ce sera tout à l'heure, on fera aussi un point bien sûr sur l'épidémie de coronavirus avec Christian Ekia. Et on évoquera aussi les bienfaits du thermalisme. Entre 7 et 8, ce sera Christian PC. Alors là, un gros dossier sur le photovoltaïque. On va vous rappeler ce que c'est. Est-ce que franchement, créer de l'électricité grâce à l'énergie solaire, c'est rentable? Est-ce que c'est facile? On rentrera dans les détails tout à l'heure avec notre invité, puis bien sûr toutes vos questions maison à partir de 7h avec Christian PC. Et pour débuter, c'est le jardin. Et le jardin, c'est avec Monsieur Miu Miu. Bonjour Patrick.
Bonjour François, bonjour à tous. Très très bienvenue dans nos jardins qui ont soif, mais qui se portent bien si on les arrose.
Oui, c'est vrai. Il faut les arroser.
Mais attendez, on fera le bilan en fin d'année, mais je pense qu'on a un déficit hydrique là, cette important. Année. C'est ouais. vrai que le printemps avait été bien mouillé, on était contents, etc. Mais alors là, en Île-de-France notamment, il ne pleut pas. Juillet, rien. Août, quasiment rien. Là, septembre, on se dit, tiens, ça va redémarrer. Normalement, on est dans la saison.
Où ça devrait quand même un petit peu.
On est encore à zéro. Donc ça, ce n'est pas terrible. Et ça ne va pas changer la semaine prochaine.
Voilà, donc on fera un point sur la météo du jardinier aussi, vous nous expliquerez tout ça. Je ne sais pas si on a vraiment de déficit hydrique au niveau, par exemple, des nappes phréatiques, des choses comme ça. Je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment remonté dans les infos.
Il a plu pas mal.
Oui, donc voilà, on a des réserves.
Avant saison, mais les nappes phréatiques, c'est très très profond. Et,
oui.
Et nos petites plantes,
elles vont pas jusque-là.
Donc en surface, là où on cultive, eh bien, les sols sont hyper secs.
Tout à l'heure, on parlera des fruits du moment, Patrick, les prunes et les pruniers.
Alors là, les prunes, c'est le moment. Alors, il y avait une pub à un moment donné qui disait « Les fruits d'été, c'est maintenant ou c'est l'année prochaine ?» Bah, c'est exactement ça. Donc les prunes, si vous aimez ça, et je vous invite vraiment à manger, je trouve ça délicieux, notamment en ce moment, bah, il faut les prendre maintenant. Et là, on est une bonne année. On a une très très bonne année, notamment pour la reine Claude verte. Parfois, vous savez, quand vous achetez les reines Claude verte, elles sont un peu molles et le goût, comment on va dire, très très rapidement, ils s'alcoolisent. Enfin, ça devient pas agréable. Là, en ce moment, elles sont. J'en ai encore mangé 5 ce matin. Là. Wow. top.
Bon, est-ce que Christian Ekia est au courant que vous avez mangé 5 prunes?
Ben, je ne sais pas s'il est là, il peut venir parler prunier avec nous tout à l'heure. Là.
Et bien évidemment, vos questions jardin, et vous le savez, et toutes vos questions avec tous nos rendez-vous en compagnie de nos experts. Le 32-16, le standard RMC, l'appli RMC Direct Studio, vous nous laissez votre message avec votre numéro de téléphone. N'hésitez pas, dans un instant, on va parler aussi. Alors là, vous l'avez sans doute remarqué peut-être cet été, et même moi à Paris, j'ai remarqué qu'il y en avait plus que d'habitude. Les guêpes, amis ou ennemis du jardin, on va en parler dans quelques instants.
C'est toujours un peu les deux.
Oui, c'est vrai.
Mais enfin, on a tous été piqués, nous, dans la famille. Là, Nicole, elle a été piquée sur la tête. Moi, j'ai été piqué sur le bras. Ma petite fille, pareil. Enfin, on n'entend que ça.
C'est vrai, c'est vrai.
Que ça.
Oui. Et j'ai l'impression qu'il y en a plus que d'habitude. Alors, est-ce que c'est une impression?
Cette année, oui.
Voilà. On va en parler dans quelques instants. Merci d'être avec nous. Le 32-16 à votre disposition. Et on commence, bien sûr, par vos questions. On est très heureux d'accueillir Yves pour débuter ce week-end des experts. Bonjour,
oui,
Yves.
Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Bonjour, Patrick. Bonjour, François.
Bonjour, Yves. Bienvenue.
Il y a une quinzaine de jours, j'ai raté le coche parce que vous parliez de grenadiers. Et donc là, bon, j'ai communiqué. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec vous. Donc, ce grenadier a une douzaine d'années. Et il y a 3 ou 4 ans, il avait de magnifiques grenades. Il y en avait une trentaine dessus, pratiquement. Et aujourd'hui, ben, il est redevenu sauvage. Donc, est apparu des sauvageons, etc. Et puis aujourd'hui, c'est un vrai buisson.
Ben, c'est un buisson parce que vous ne le taillez pas. Enfin, moi, j'ai vu...
Ben, je le taillais régulièrement auparavant. Hein.
Ben oui, mais maintenant, non. Parce que, enfin, moi, vous m'avez envoyé une photo.
Oui.
Ce que j'ai sur la photo, c'est, en fait, un grenadier qui n'est pas entretenu. Qui pousse de façon totalement anarchique et qui, évidemment, vu la densité de végétation qu'il y a, ben, ne permet pas aux fruits de s'épanouir parce qu'il faut quand même qu'il y ait une exposition au soleil des fruits. Donc là, alors je ne sais même pas, est-ce qu'il fleurit ?
Ah oui, ben, il a eu 3-4 fleurs, mais très
oui,
peu. Hein.
Non, mais 3-4 fleurs, ça veut dire effectivement 3-4 fruits au mieux. Donc là, il a absolument besoin d'être remis en silhouette, d'être aéré sérieusement, avec vraiment une taille pendant l'hiver. Hein, il faudra le faire bon, dès que toutes les feuilles seront tombées, dès que le bois sera sec, eh bien, vous pouvez retravailler tout ce monde-là en éliminant donc toutes les pousses qui se développe vers l'intérieur de la ramure, en essayant de réduire aussi le nombre de branches, par exemple, en ne laissant pas plusieurs pousses démarrer du même point. Ça, c'est important dans une taille d'aération. C'est de rechercher comment se développent les branches. Et très souvent, vous avez plusieurs pousses qui partent du même point. Ben, on n'en garde qu'une, celle qui est la plus orientée vers l'extérieur. Pourquoi ? Eh bien, pour obtenir une forme de gobelet évasé et dégagé en son centre. Et ça, c'est absolument nécessaire, parce que sinon, bien sûr, là, vous avez un arbuste qui pète la forme, si je puis dire, de façon triviale, mais voilà. Là, il a besoin d'être retravaillé. Et n'oublions pas une chose, parce que même si aujourd'hui on entend tout et n'importe quoi, et notamment que la nature fait toujours bien les choses, je suis désolé, mais en matière de jardin, c'est le jardinier qui fait le jardin. Et c'est le jardinier qui fait ses productions, et la nature, elle est là que pour vous accompagner et pour vous fournir les éléments, on va dire, un peu comme dans une usine, vous avez de la matière première, et après, il y a une transformation. Et bien là, dans le jardin, c'est la même chose. La nature, c'est la matière première. Et le jardinier, bien, c'est lui qui améliore tout cela dans un but productif quand c'est un problème de fruits, comme c'est le cas pour vous avec le grenadier.
Mais, pardon, l'année dernière, c'est ce que je faisais. Hein, je le taillais régulièrement, je le nettoyais correctement et tout, en laissant quelques pousses. Mais je vous assure... Ça a commencé l'année dernière, je le taillais, 2 mois après, c'était à nouveau pareil, quoi.
Alors, c'est lié certainement au fait aussi que votre grenadier pousse dans un sol qui est particulièrement riche, nutritif, et je l'explique souvent ici sur l'antenne. Est-ce que vous faites, par exemple, des apports de compost ou de fumier ou de choses comme ça ?
Je mets un peu d'engrais organique, mais pas des quantités. Hein.
Oui, oui, mais ça veut dire que, donc, certainement, il y a une concentration, notamment en matière azotée, qui est importante et qui favorise le développement des tiges et des feuilles au détriment des fleurs. Donc vous allez arrêter totalement tous les apports d'engrais, vous ne mettez pas de compost, vous ne mettez pas de fumier, vous ne mettez pas de fertilisant, de manière à ce que le grenadier se retrouve dans un sol qui lui convient mieux pour notamment la fructification, à savoir des sols plutôt drainants, des sols qui sont pas d'une grande richesse. Et là, on va dire, c'est curieux de dire ça, mais il faudrait plutôt appauvrir votre sol de façon à réduire cette extraordinaire vigueur qu'il a actuellement.
Merci beaucoup Yves pour votre appel, et si tout comme Yves vous voulez joindre Patrick Mulan et non pas Jean-Luc, parce que Jean-Luc c'est le dimanche. Hein.
Alors Jean-Luc, il y en a un, Mulan, c'est mon frère.
C'est vrai ?
Oui.
Bah tiens, on le salue. Il n'est pas du tout dans le jardin, j'imagine.
Non, il n'est pas dans le jardin, mon frère s'occupait des chars d'assaut.
Oh, pétard, ah oui, c'est carrément autre chose. Ah oui. Et donc, si, tout comme Yves, vous voulez joindre Patrick Mulan au 32-16, vous avez aussi la possibilité de poser votre question via l'appli RMC Direct Studio avec votre numéro de téléphone. Vous pouvez nous faire un petit coucou. On est connecté sur Direct Studio comme chaque samedi et dimanche d'ailleurs. Il est temps de retrouver le conseil de Miu Miu.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC.
L'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Dans la forêt de fleurs en fleurs.
Aïe, aïe, aïe.
On voit fleurter un beau frelon.
Ah.
Sa guêpe seule avec ses pleurs. Fait les carreaux à la maison.
Ben ça, fallait la trouver.
Fallait la trouver, celle-là. Hein. Qui a trouvé ce petit bijou? C'est Kevin? C'est Gilles? Ah, il ne se prononce pas. Il ne se prononce
mais on sait
pas.
Qui
les deux.
Sait qui est au micro.
On sait qui chante ou pas chante. Non, on sait même pas qui chante en fait. Frédéric Lecoultre. Bien, dites-moi. Ben voilà. Bon, enfin bon, bref. On va parler des guêpes. Vous l'avez compris. Et attention. Avant toute chose, Patrick, comment peut-on expliquer la prolifération des guêpes observées cet été? Et sans doute que vous qui nous écoutez l'avez observée.
Alors la prolifération, elle a été réelle puisque dans certaines régions, les entreprises qui sont spécialisées dans la lutte contre ce qu'on appelle les nuisibles ont eu jusque pour certaines 300% d'appels en plus de destruction de nids de guêpes. Alors pourquoi on a assisté à cela? Alors certains disent c'est à cause de l'hiver très doux. Alors oui et non. Parce que cet hiver très doux, il aurait très bien pu être suivi par un printemps plus frais, etc. Non, c'est l'ensemble des conditions météorologiques que l'on a vécues à la fois en hiver et au printemps, et notamment cette douceur humide qu'il y a eu au printemps, qui a favorisé, on va dire, pas l'éclosion, parce que comment ça fonctionne, entre guillemets, une guêpe?
Comment ça marche?
À la fin de la saison, en automne, l'ensemble de la colonie meurt, sauf ce que l'on appelle les reines. En fait, c'est pas comme chez les abeilles, mais un peu, on va dire les fondatrices qui ont été fécondées. Donc ces guêpes qui sont fécondées vont hiverner et créer la colonie chaque printemps, renouvelée. Donc une colonie de guêpes, ça ne vit qu'un an. Et lorsque l'hiver est à la fois très rigoureux et surtout, on va dire, très sec et avec des redoux, c'est ça qu'il faut savoir. On dit oui, un grand froid, ça va éliminer beaucoup de nuisibles. C'est pas vrai. Parce qu'une guêpe, par exemple, en hiver, elle est tout à fait armée pour résister au froid quand elle est en dormance. En revanche, si vous avez froid, ouais, chaud, froid, chaud,
elle se réveille.
Elle se réveille
et s'il fait froid,
exactement.
Là, elle n'aime pas.
Hop, elle est éliminée. De même façon, au printemps, elle a besoin de cette douceur humide pour vraiment commencer son travail de fondatrice de colonie. Et là, cette année, toutes les conditions étaient réunies pour avoir, évidemment, donc plus de guêpes. Comme il n'y a pas eu beaucoup de mortalité, eh bien, on a plus de colonies et les populations se sont complètement développées. On va dire aussi que l'été, assez chaud, même très chaud dans certaines régions ou dans certains moments, favorise aussi l'activité agressive de la guêpe. C'est comme les abeilles, on sait très bien que lorsque le temps est orageux, notamment,
elles sont beaucoup plus agressives.
Voilà, oui, et donc là, peut-être qu'on a eu ce problème-là, et peut-être aussi qu'elles ont été un petit peu gênées par la sécheresse qui fait qu'elles se sont rapprochées de nous. Moi, j'ai vu souvent, lorsqu'on déjeunait en plein air, les guêpes qui venaient chercher de l'eau, en fait. Elles cherchaient l'humidité, parce qu'elles ne trouvaient pas, actuellement dans la nature. Il commence à y en avoir un petit peu de rosée mais tout l'été, on n'en avait pas. Mm-hmm. Donc ça a favorisé la présence des guêpes.
Est-ce qu'on peut dire que le confinement aussi a peut-être facilité, ou en tout cas, arrangé les guêpes?
Alors ça, c'est controversé, parce que ça dépend d'où. Les forêts et les parcs publics ayant été interdits de présence humaine pendant un certain temps, il est certain que dans ces endroits-là, les nids de guêpes ont pu se développer sans que personne les remarque et puisse les détruire.
Moins de pollution aussi pendant ces deux mois. Est-ce que ça a un impact ? Non,
ça, l'impact, il est extrêmement faible. Ouais. En revanche, dans les jardins, on a eu une suractivité jardinière. Donc je pense que si on avait dans nos jardins des nids de guêpes, on les a vus et donc ça peut contrebalancer. Je ne pense pas qu'on puisse dire vraiment que le confinement ait pu avoir un rôle, mais bon, peut-être.
Est-ce que on peut distinguer facilement une guêpe d'une abeille ?
Ah oui, alors ça, je voudrais vraiment qu'on en parle sérieusement, parce que souvent, ah, une abeille, oh, une guêpe. Bon, les abeilles sont éminemment utiles, ce sont des insectes qu'il ne faut surtout pas détruire et encore moins, je veux dire, embêter ou lutter contre. Donc, il faut savoir repérer. Une guêpe, c'est un insecte très très proche de l'abeille. Ce sont deux hyménoptères qui appartiennent même à la même famille, mais...
C'est pour ça qu'on les confond d'ailleurs, enfin, alors, tous ceux voilà, qui n'ont pas l'habitude les confondent.
Une guêpe, ça a une taille de guêpe. Vous savez ce qu'on dit, une taille de guêpe, donc très fine. Donc on voit bien la différenciation entre le thorax et l'abdomen, avec un rétrécissement. Cet abdomen sur la guêpe, il est rayé régulièrement, jaune, noir, jaune, noir, ou noir, jaune, comme vous voulez. Alors que, et il est lisse. L'abeille, elle, a un corps beaucoup plus ramassé. Il n'y a pas la taille de guêpe. Et, alors, elle peut être un peu noire et jaune, mais généralement, elle est quand même plutôt brune. Et dans les abeilles domestiques, elle est plutôt même parfois un peu noire. Et surtout, son abdomen, il est velu. C'est ce qui aussi fait que l'abeille est une pollinisatrice efficace.
Parce qu'avec ses petits poils, elle capte en
fait... Elle capte le pollen, alors que la guêpe, elle, n'est pas une pollinisatrice, du moins la guêpe classique, la guêpe. Alors on a deux types de guêpes communes qui se ressemblent comme deux sœurs. Il y a la guêpe d'Allemagne, hein, et puis la guêpe commune. Bon,
allez. Après, il y a aussi, on va dire un indice, hein, c'est que quand on est embêté par une guêpe, on sait que c'est une guêpe parce qu'elle vient manger les choses que les abeilles ne viennent pas manger, non ?
Alors oui, vous avez raison, mais elles sont quand même toutes les deux attirées par la même chose, à savoir tout ce qui est sucré. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de manger une crème ou un gâteau, vous pouvez aussi bien avoir des abeilles que des guêpes qui viennent autour de vous. En revanche, quand vous êtes en train de déguster un steak ou des brochettes sur le barbecue, là vous n'avez que des guêpes.
Parce que les abeilles s'en foutent, ça ne les intéresse pas.
Les abeilles ne mangent pas de viande. Parce que les guêpes sont des prédateurs qui ont besoin de nourriture carnée pour nourrir leurs larves. Les larves, elles, mangent aussi très souvent des proies vivantes. Et curieusement, ce sont les larves qui alimentent les adultes. Donc l'adulte apporte les proies aux larves, qui les consomment, les digèrent et régurgitent à l'adulte des substances sucrées.
Est-ce que les guêpes sont utiles pour la nature ?
Alors, évidemment, comme tout animal, il y a une utilité. Notamment, je viens de dire que les guêpes sont des prédateurs. Donc, elles vont chasser des mouches, elles vont chasser
des chenilles.
Oui.
Ah ouais.
Oui, oui. Dont elles vont nourrir leurs larves. Donc, déjà, à ce niveau-là, elles ont un intérêt positif, on va dire, à notre avis. Mais, on oublie les très 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 nombreuses guêpes qui ne sont pas des guêpes sociales, qui sont des guêpes solitaires et qui sont parfois des micro guêpes et dont la vie est une vie de parasitoïde. C'est-à-dire quoi ? Eh bien, l'adulte pond à l'intérieur d'un autre insecte et c'est la larve de cette guêpe qui va se nourrir de la substance de l'insecte lui-même. Or, on en a besoin et on va les utiliser comme des insecticides naturels, notamment pour lutter contre
réguler les populations, des choses comme ça.
Et donc aujourd'hui, ces micro-guêpes sont de plus en plus utilisées. Alors c'est d'une complexité sans fin parce que beaucoup sont affiliés ou à une sorte de pucerons et pas 36. Donc il faudrait pratiquement avoir une guêpe pour chaque problème de chaque plante, mais ça devient très très intéressant dans la perspective de non-utilisation de produits chimiques pour lutter contre les ennemis des plantes.
Bon, à choisir, vaut mieux se faire piquer par une guêpe ou une abeille ?
Il vaut mieux se faire piquer par une abeille, bien entendu. Pour quelle raison ? C'est que le venin de la guêpe est généralement beaucoup plus allergisant. Quand vous vous faites piquer par une abeille, ça vous fait mal sur le cou. Il est assez rare. Je ne généralise pas. Et je dis assez. Il est assez rare que vous ayez des réactions anaphylactiques, donc avec un gonflement des tissus, etc. Mmh. Sur la guêpe, c'est très très fréquent. Et il faut savoir qu'en France, il y a quand même une vingtaine de personnes qui décèdent chaque année de piqûres de guêpe à cause justement d'une surallergie. Ouais. Et puis qui peut entraîner à un moment donné un arrêt cardiaque. Et donc ça, c'est quand même important. Il faut faire attention. Donc quand vous êtes piqué par une guêpe, ce qui, à part la douleur, peut être assez invisible, parce que la guêpe, contrairement à l'abeille, ne perd pas son dard lorsqu'elle vous pique. Donc une guêpe peut piquer plusieurs fois.
Alors qu'une abeille, elle vous pique, après elle est morte.
Non, une abeille, malheureusement pour elle, quand elle vous pique, son dard est en forme d'éperon avec des barbes.
Ça lui arrache une partie de son abdomen, c'est
ça ? Exactement, et la malheureuse meurt du fait de vous avoir piqué.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur les guêpes, on pourrait en parler pendant des heures.
Sans doute.
Et c'est passionnant. Patrick, on revient dans un instant, on va évoquer les prunes et les pruniers, juste après la météo, et on attend vos questions. Tiens, vous avez des questions sur les pruniers que vous avez dans votre jardin, n'hésitez pas. 32-16, l'appli RMC Direct Studio, à tout de suite.
RMC, 6h-7h, votre jardin, François Sorel,
Patrick Mulan.
Il est 6h30, tout pile. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous et merci de nous avoir rejoints sur RMC. C'est votre week-end des experts et c'est le jardin. Jusqu'à 7h, une heure de jardin chaque samedi sur RMC en direct avec sans doute le meilleur expert dans ce domaine, Patrick Mulan. Patrick, on a évoqué les guêpes, on retrouvera tout à l'heure vos coups de cœur, la météo du jardinier aussi dans quelques minutes. Mais dans l'immédiat, j'aimerais vous solliciter, vous qui nous écoutez ce matin, n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant au 3216 ou nous joindre via l'appli RMC Direct Studio pour évoquer les pruniers. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas, c'est maintenant 3216, l'appli RMC Direct Studio, et on va parler donc des pruniers. Patrick, peut-être commencer par cette question toute simple. Quels sont les différents fruits que l'on appelle des prunes ?
Et vous, qu'est-ce que vous me diriez? Je vais renvoyer la question. On a des prunes qui sont bien connues.
Je sais pas, Mirabelle peut-être.
Voilà, Mirabelle, bien sûr. Mirabelle qui est vraiment un fruit de fin août, début septembre. Là, c'est le moment top. Donc, vraiment localisé dans la région de l'Est. Hein. Il y a la Mirabelle de Nancy et la Mirabelle de Metz.
Ah oui.
Donc ça, vraiment, avec les noms des variétés, on voit bien d'où ça vient. Donc si vous allez dans ces régions-là, c'est là qu'on a le top des Mirabelles. Après, qu'est-ce qui viendrait à l'esprit ?
Quetsch ?
Oui, la Quetsch, évidemment. Alors, elle est un peu plus tardive, la Quetsch. Donc c'est une grosse prune ovale, ça ressemble un peu à un œuf, de couleur violette, la Quetsch. La chair est assez ferme sur... Alors on l'appelle parfois aussi prune de Damas, parce que c'est une prune qui est originaire du Moyen-Orient. Et donc c'est une prune qui est cultivée en Alsace. Donc on a la Lorraine, la Moselle, l'Alsace. Donc tout ça, ce sont des régions vraiment à prunes. Et puis on a... Alors, le prunier d'Ante, ça vous dit quelque chose, le prunier d'Ante ? C'est le pruneau. C'est avec ça qu'on va
faire. Ah oui,
c'est une grosse prune qui ressemble beaucoup à une Quetsch.
Et donc là, on est plutôt dans le sud-ouest. Alors
là, on est complètement dans le sud-ouest. Et puis, alors, mon coup de cœur, vraiment celle que j'adore et qu'il faut vraiment consommer en ce moment, je vous en parlais tout à l'heure, c'est la reine Claude. La reine Claude verte. Alors, c'est vrai que c'est un fruit dont la couleur, pour beaucoup, n'est pas attractive. Parce que c'est vrai que quand on voit une Mirabelle bien dorée, etc., on se dit, tiens, ça doit être savoureux. Ou même ces horribles prunes que l'on voit maintenant dans le commerce, vous savez, elles sont pratiquement grosses comme des pommes, elles sont rouges vifs ou elles sont jaunes comme vraiment de l'or. Celles-là, elles n'ont strictement aucun goût. Alors ça, je vous dis, on les appelle des américano-japonaises, ça n'a aucun intérêt gustatif. Mais la prune verte, alors là, je ne vous dis pas la prune verte. Alors achetez la prune verte de la façon suivante. Il faut qu'elle ait une certaine fermeté au doigt lorsque vous allez la prendre parce que la plupart du temps, maintenant, on se sert soi-même. Donc, si elle est molle, vous la prenez pas. Parce qu'elle a déjà dépassé son stade de maturité. Et sur le plan gustatif, elle va avoir un côté un peu passé, un peu, je dirais un peu comme alcoolisé. C'est pas trop bon.
Mais quand il faut qu'elle soit ferme.
Voilà. Alors, pas dur comme du bois, mais quand vous appuyez, vous sentez que ça peut légèrement s'enfoncer, très très légèrement, et là, vous êtes au top. Alors, Dernier conseil par rapport à l'achat et la consommation de prunes que vous n'avez pas dans votre jardin mais que vous achetez chez le primeur, c'est consommation quasi immédiate. Ça ne se garde pas bien.
Surtout, on les achète le matin, on les mange à midi.
On va les manger dans les deux jours, dans les trois jours, parce que très rapidement, à l'air libre, la prune va se rider, elle se flétrit, elle a tendance même à se concentrer et elle est moins bonne.
Elle est moins bonne. Voilà. Donc à manger rapidement.
Donc elle soit turgescente.
Sur le plan botanique, Patrick, quel est l'arbre qui donne des prunes ?
Alors, il s'appelle Prunus domestica. C'est un arbre dont on ne sait pas trop d'où il vient. Donc, on pense, en réalité, que ça serait plutôt un hybride naturel entre notre prunelier. Vous savez, le Prunus spinosa, qui est un prunier épineux, qui donne la prunelle dont on peut faire des confitures ou aussi certaines boissons alcoolisées, et un prunier qui serait venu du Moyen-Orient. La prune est cultivée depuis des temps ancestraux. Il y en avait chez les Égyptiens d'Antiquité, etc. Donc c'est vraiment un fruit qui n'a pas, on va dire, botaniquement tellement évolué. Et ça serait les croisés qui auraient rapporté cette prune, qui sur le plan botanique est une drupe. Alors qu'est-ce qu'une drupe ? Eh bien c'est tout simplement un fruit charnu qui entoure un noyau. À la différence d'une baie, qui est aussi un fruit charnu dans lequel il y a des pépins qui se baladent à l'intérieur de la chair.
Patrick, est-ce que l'on peut cultiver un prunier dans toutes les régions ?
Oui, on a bien vu, vous parliez du sud-ouest pour le pruneau, on a parlé de l'est pour les quetschs et les mirabelles. Alors, attention, c'est quand même un arbre qui, pour bien fructifier, a besoin d'un hiver assez marqué. Donc, on peut même le cultiver jusqu'à à peu près 1000 mètres d'altitude, c'est très rustique, il n'y a vraiment pas de problème. Dans les régions typiquement méditerranéennes, je pense qu'on n'aurait pas des résultats extraordinaires au niveau du prunier, à cause justement de ce manque d'hiver marqué. En revanche, c'est un arbre qui est très facile à cultiver, parce qu'il s'accommode bien de pas mal de sols. Il n'aime pas, comme tous les arbres fruitiers, être exposé au vent dominant, et alors, c'est vrai que quand on le cultive dans ces régions de prédilection, donc que sont l'est de la France, il y a toujours une crainte au printemps, parce que s'il y a une gelée printanière un peu tardive au moment de la floraison, eh bien, on perd les risques de la fructification.
Et voilà. Quelle est la longévité d'un prunier, Patrick ?
Ben, pas tellement, en fait. Alors, ça peut vivre assez longtemps, mais on va dire la longévité productive est autour d'une trentaine d'années. On peut aller dans un jardin, comme on ne pousse pas la production jusqu'à une cinquantaine d'années, mais c'est pas l'arbre le plus, on va dire, comment on dit pas longélif, enfin qui vit le plus longtemps. Hein. C'est vraiment pas un arbre qu'on peut garder sur des générations et des générations.
D'accord. Est-ce qu'avec un seul prunier dans son jardin, on peut obtenir quand même une belle récolte ?
Alors ça dépend ce que vous cultivez. Parce que les mirabelles, par exemple, la mirabelle de Nancy, la mirabelle de Metz, elles sont auto-fertiles. C'est-à-dire que vous avez un seul prunier, ça va très bien. La prune d'Ante, pour faire du pruneau, et la quetsche commune, c'est la même chose. En revanche, la reine Claude Verte, elle n'est pas auto-fertile. Donc elle a besoin du pollen d'un autre prunier, ça peut être une mirabelle par exemple, qui vient féconder ses fleurs, donc ça il faut le savoir. Alors vous n'êtes pas obligé vous-même dans votre jardin de planter plusieurs pruniers, si vos voisins par exemple en ont déjà planté dans ces cas-là, bah, ils vont se faire les échanges de bons procédés pour se fertiliser.
Est-ce qu'il faut tailler les pruniers, Patrick ?
Alors non, ou pas beaucoup, pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas former un prunier. On parlait tout à l'heure avec un auditeur là, des grenadiers. Et il avait un grenadier qui était tout très touffu, de forme naturelle, etc. Eh bien, le prunier, il est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en faire une palmette, par exemple. On ne peut même pas en faire un gobelet. On va le laisser vivre sa vie. Mais il faut savoir que les branches principales des pruniers, elles vont vieillir assez vite. Donc, il est bon de rajeunir régulièrement par un élagage le prunier en éliminant les branches vieillissantes au profit de branches plus jeunes et en essayant toujours de garder cette forme importante de gobelet évasé et ouvert en son centre pour que bien le soleil fasse son travail pour la bonne marche de la fructification. Mais on ne taille pas énormément. Alors ce qu'il faut en revanche, c'est au moment de la plantation, c'est bien commencer à former la ramure. Ça, c'est important.
Tiens, puisque Christian Ricard vient de rentrer dans ce studio, je pense qu'il nous a écoutés. Il est venu avec son hélicoptère.
Et il vient aussi nous aider à parler des pruniers, parce que justement, tiens, on peut parler de ça.
Bonjour Christian.
Bonjour.
J'ai failli prendre une minute, Christian.
Oui, absolument. Ce qui est remarquable, ce qu'il faut comprendre, je suis de Metz, je suis né là-bas, et la prune, la mirabelle, tout ce que vient de dire notre excellentissime Patrick, concrètement, est fabuleux. Ce qu'il faut intégrer simplement, c'est que ce fruit est particulier, c'est que, donc, comme tous les fruits, il contient du fructose. Et quand on a des mirabelles à cueillir, et j'en ai été le témoin vivant, c'est qu'on en mange 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 40. Et au bout de 40 grammes de fructose, vous avez une intolérance à la digestion de ce sucre et vous avez des troubles digestifs qui peuvent apparaître. Donc, ce qui veut dire concrètement que
il en a mangé cinq.
Il en a mangé cinq. C'est exactement ce qu'il faut et pas plus dans la journée.
Ah oui. On aurait pu avoir des dérangements de Patrick Mulan dans le studio.
Et ensuite, sur le plan nutritionnel, c'est avec des fibres. Ce sont des produits remarquables. Ils ont concrètement, bien sûr, des antioxydants comme tous les fruits, comme je l'ai dit 100 fois dans cette émission. Cela étant, je dirais que c'est vraiment le fruit amusant pour les enfants et c'est vraiment le moment. Où, alors faites des tartes parce que vous congelez ces fruits ensuite concrètement, vous gardez les antioxydants et ensuite en hiver, en décembre, vous prenez ces tartes, vous les décongelez et ça fait les après-midi du week-end.
Et si on a des problèmes de transit, ça aide, hein, parce que
je dirais que la tarte, c'est pas plus d'une part de tarte, parce que la prise de charge glycémique après une tarte de mirabelle,
c'est l'explosion
à 7 grammes en quelques minutes. Bien sûr, la suine est là.
On dit chez nous que ce sont des fruits qui font courir.
Voilà, c'est ça. Et donc,
on dit que ce sont des fruits qui font courir.
Ce sont des fruits à tarte.
Ça vous fait courir vers les toilettes.
Si on a une espèce de constipation passagère, c'est peut-être pas mal alors.
Alors, je sais pas si ça aide à la constipation.
Très sincèrement, oui, c'est pas mal.
D'accord.
Mais on prend pas ces fruits-là pour ça. On fait les tartes avec
plaisir,
et on passe tout l'hiver à manger une dizaine de tartes. Donc, achetez. Il y en a plein cette année. On en regorge. Donc, mesdames et messieurs, préparez une dizaine de tartes. Mettez-les dans un congélateur et vous allez passer 10 week-ends exceptionnels.
Merci, Christian, pour ce petit aparté.
Et j'ai failli prendre une prune parce que j'étais en retard.
Oh, bravo.
Et les conseils de Christian, c'était pas pour des prunes.
Oh là 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 là, mais attendez, mais quel festival là. Il va falloir au moins une minute de pub pour se remettre de toutes ces blagues. À tout de suite avec la météo du jardinier. Gérald sera avec nous. Il a un pommier qui perd toutes ses feuilles. Il est stressé, Gérald.
Il est horrible, son pommier.
Aïe, 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 aïe. Ça va charcler sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC
jusqu'à 7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Voilà, quasi 7h moins le quart, le retour du week-end des experts, c'est le jardin. Et un grand bonjour à vous qui venez peut-être de nous rejoindre. Dans quelques minutes, vous retrouverez les infos de 7h. Et puis juste après, ce sera Christian PC pour la maison, vous le savez. Patrick,
oui,
nous allons retrouver dans un instant la météo du jardinier. Mais auparavant, c'est Gérald qui nous attend au 32-16.
Allô ?
Bonjour,
oui,
Gérald,
bonjour.
Oui, bonjour.
Et bonjour, bienvenue, bonjour. On vous écoute.
Merci. Bah, écoutez, moi j'ai deux arbres qui me donnent souci dans mon jardin. J'ai mon pommier, comme vous allez pouvoir voir la photo, on commence un peu à le confondre avec son tutin, on ne sait plus qui est qui.
Oui.
Donc il a perdu là récemment toutes ses feuilles. Il reste peut-être une dizaine de feuilles. Alors ce qui est rassurant, c'est que les dernières feuilles sont bien accrochées apparemment. Mais qu'est-ce que vous en pensez d'après les photos que j'ai envoyées?
Ce que j'en pense, mais c'est une catastrophe totale.
Non,
c'est-à-dire que surtout en cette saison, vous imaginez qu'un arbre, pendant la saison printanière et estivale, il est dans une activité métabolique maximale qui est liée à son feuillage. À partir du moment où il n'a pas de feuilles, et en plus, c'est là que je voulais vous tirer sérieusement les oreilles, c'est que vous avez laissé les fruits, c'est un truc qu'on ne fait pas. Parce que je l'ai expliqué maintes et maintes fois sur l'antenne, l'énergie demandée à une plante pour faire des feuilles est éminemment moins importante que pour former des fleurs et a fortiori des fruits.
D'accord.
Donc, pour que une plante, un arbre, amène ses fruits à maturité, eh bien, il faut que tous ces éléments métaboliques, énergétiques, à savoir les feuilles, soient présentes. Et là, vous êtes en train d'avoir un arbre qui est en épuisement total. Et d'accord, je ne sais pas si je peux demander au docteur Rekia de l'amener à l'hôpital, mais il est, à mon avis, oui, ça sert à... c'est complètement sous perfusion qu'il faut le mettre. Mmh. Bon, ce qu'il aurait fallu faire... Non, je vais donner un conseil de base. Je sais bien que pour chacun, c'est un crève-cœur. Mais la première année de plantation, on ne laisse pas de fruits sur un arbre fruitier. On le laisse prospérer, faire ses feuilles. On va pas enlever les fleurs, mais dès que les fruits commencent à se former, on va les éliminer pour justement que la plante prenne de la force et puisse vous faire la production que vous attendez dans les années qui viennent.
Bon,
dans le cas de la photo que j'ai pu voir de ce pommier qui a 3 feuilles et 4 fruits, je ne sais pas du tout ce que l'on peut faire, hormis se dire « Bon, bah, on verra ce qui va se passer au printemps prochain. » Bon, donc, actuellement, où les conditions climatiques ne sont pas excellentes pour le développement de toutes les plantes du jardin, il serait bon quand même sur un jeune arbre comme ça de l'arroser assez régulièrement. Quand je dis arroser un arbre fruitier, c'est lui donner entre 10 et 20 litres d'eau deux fois par semaine en cette saison. D'accord. Donc c'est quand même assez considérable. Bon, même si je pense que, si vous voulez que je vous parle très très franchement, moi cet arbre-là, je le mettrais à la poubelle. Mais bon, on peut toujours se dire, quand il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais quand une vie démarre mal, eh bien, c'est difficile de la récupérer. C'est-à-dire que vous allez avoir un arbre qui va être chétif, qui va être en difficulté pendant plusieurs années, qui va être agressé par tous les bio-agresseurs possibles, imaginables, parce qu'il ne sera pas suffisamment costaud. Donc, le truc, ça serait mieux d'imaginer de le remplacer.
D'accord, très bien.
Alors, Gérald, je crois que vous aviez une deuxième question concernant un pin parasol.
Un pin parasol, alors ça c'est... j'en avais déjà planté un, j'ai eu beaucoup de problèmes, il a jauni, puis là maintenant il est carrément cuit complètement, malgré qu'il était dans un endroit où il avait de l'eau quand même, et puis je l'arrosais régulièrement. Là j'en ai racheté un autre, un arbre qui a 12 ans approximativement. Je voudrais le planter donc dans un sol argileux, je voudrais pas que ça fasse comme le
ben oui,
premier
mais ça,
pin.
Ça marche pas, mon cher monsieur, ça ne marche pas. Où est-ce que poussent les pins parasols?
Dans le sud-est.
Et en bord de mer. Donc sur des sols qui sont caillouteux, sableux, ultra drainants. Donc là, il faudrait mieux utiliser d'autres types de pins. Donc il y a le choix. Vous avez par exemple pris Pinus valichiana, le pin de l'Himalaya, qui est magnifique. Alors, il est grand, hein, mais on peut le réduire. Il a des aiguilles pendantes, c'est très très beau. Bon, vous avez aussi le pin sylvestre. Alors, peut-être que c'est moins esthétique en soi, mais il y a des cultivars de pin sylvestre qui sont quand même très très intéressants. Bon, dans votre cas, vous pouvez toujours tenter le coup, mais alors ce que j'ai vu, c'est que, un, vous avez fait un trou de plantation. Ce trou de plantation, il est trop petit, notamment par rapport à l'adaptation de cet arbre dans le type de sol que vous voulez faire. Donc ce qui serait bien, là, évidemment, c'est un peu dur, il faudrait faire 1 mètre cube de trou. 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Bon.
D'accord.
Et au fond, vous mettez une énorme couche drainante, toutes les caillasses que vous allez pouvoir récupérer, ça sur, on va dire, 20 cm, 15-20 cm.
D'accord.
Et ensuite, donc, vous installez votre pin parasol dans le trou énorme que vous avez fait, et vous mélangez à la terre d'origine du sable grossier, de manière à avoir donc un environnement aussi drainant que possible.
D'accord.
Ça permettra au jeune arbre de s'installer tranquillement dans un milieu qui lui est favorable et petit à petit d'envoyer ses racines dans le sol qui est moins approprié, mais il aura déjà, on va dire, mieux survécu. Alors, ce qui m'a un peu inquiété dans l'image que j'ai vue, c'est que votre pin parasol, il est jaunissant. Il y a quand même pas mal de branches qui sont jaunasses. Vous l'avez acheté il y a longtemps, c'est pour ça ?
Non, je l'ai acheté début août. Et quand je l'ai acheté, il y avait quelques épines qui étaient jaunes, marron jaune en fait. Donc j'avais demandé à la jardinerie où c'est que je l'ai acheté si c'était grave.
Ils m'ont dit non, c'est pas grave. Et puis bon, là,
bah, ils vont vous dire toujours que c'est pas grave, mais
voilà.
Enfin, moi, je suis quand même aussi un peu circonspect quand je vois qu'on achète un arbre, bon, qui doit coûter déjà un certain prix,
tout
et qui il donne pas l'impression d'être vraiment très très costaud, très en bonne santé. Donc c'est un peu dommage. Vraiment, le choix de la plante en pépinière ou en jardinerie, il est très très important. Bon, en plus, vous l'avez acheté début août et vous lui avez laissé passer tout l'été dans son petit conteneur bien serré. J'espère que vous l'avez arrosé régulièrement, parce qu'une plante dans un conteneur comme ça, il faut l'arroser quasiment tous les jours. Parce que
pas tous les jours.
Mais oui, mais il y a un volume de terre tellement peu important. Les racines, en plus, se trouvent généralement juste derrière la fine paroi de plastique du conteneur. Donc, dès que le soleil tape dessus, etc., la température là-dedans, ça monte très, très, très fort, et la plante souffre. Et donc, là, vous aviez déjà une plante un peu jaunasse, et elle a souffert encore pendant un mois. Donc là, il est temps de la mettre vite en terre et de bien aussi l'arroser. Voilà, bon courage et bon jardinage.
Gérald, merci beaucoup pour votre appel au 32-16. N'hésitez pas à invoquer son jardin, le standard RMC d'un côté 32-16 ou bien l'appli RMC sur votre smartphone, Android ou iPhone. Vous avez la possibilité de nous laisser un message avec votre numéro de téléphone. On enchaîne avec la météo du jardinier. La semaine de septembre qui s'annonce, Patrick, qu'est-ce que vous avez analysé en jetant un œil sur les cartes de Météo France ?
Alors, on va dire que dans les premiers jours de la semaine, notamment à partir de lundi, on a des minimales assez fraîches pour la saison, puisqu'on aura un 8 degrés sous abri en Champagne lundi. Mais ensuite, la journée est toujours agréable. Donc on est encore dans une configuration assez estivale, avec généralement des températures qui sont autour de 20 dans la moitié nord et qui sont autour de 25, voire plus, dans la moitié sud. En revanche, on reste dans une configuration plutôt sèche, parce que bon, à partir de mercredi, oui, on aura des pluies orageuses sur la Méditerranée et qui vont persister au moins pendant deux jours, et là devrait être bien arrosé la bord de la Méditerranée et la Corse notamment, mais le reste du pays, ça reste sec. Il y aura peut-être mardi une petite dégradation qui va donner des pluies de la Bretagne à l'Île-de-France dans l'après-midi, mais ça va s'évanouir aussi vite que c'est arrivé. Donc on est encore en été, donc on est encore obligé d'arroser correctement. Alors après, les conditions pour jardiner sont particulièrement agréables, parce que on a mis la canicule derrière nous. Bon, hormis quand même en fin de semaine, vendredi, il est prévu 30 degrés à Toulouse et à Biarritz, donc ça sera quand même encore très chaud. En revanche, vous aurez que 18 dans le Cotentin. Donc, d'une manière générale, les conditions sont très bonnes pour le jardinage. Il faut beaucoup arroser pour entretenir aussi la continuité, notamment dans les floraisons. Couper régulièrement les fleurs fanées. Ça, je peux vous donner un petit truc sur les géraniums, qui ont tendance donc à faner petit à petit. Coupez systématiquement les fleurs dès qu'elles sont fanées. Même si vous avez un géranium horrible où vous avez toutes les fleurs fanées, vous coupez tout. Allez, on va dire 10 jours après, vous avez de nouvelles floraisons. Ça remonte très très bien grâce justement au fait de bien nettoyer. Donc faites ça. Et puis, il y a une recrudescence de croissance en ce moment, donc sur les stolons de fraisiers, sur les rejets de lilas, de noisetiers, de framboisiers. Bon, ça, il faut couper tout ce monde-là. C'est pas la peine donc d'avoir des pousses qui servent à rien, ou du moins qui prennent de la sève au détriment du reste de la plante. Voilà. Sinon, on va commencer à penser à acheter les bulbes. Les premiers bulbes arrivent dans les magasins pour le printemps. Et puis, il y a toutes les fleurs d'arrière-saison que vous pouvez mettre en place en remplacement de celles qui ont mal passé l'été, pour faire une deuxième saison de floraison. Comme on a la chance aujourd'hui, alors je croise les doigts, peut-être que ça sera pas la réalité, mais normalement d'avoir quand même des automnes qui sont de plus en plus longs et les premières gelées qui arrivent tardivement, ça vaut le coup de faire des plantations d'arrière-saison.
Patrick, pour terminer, il nous reste une minute. Votre coup de cœur de ce samedi matin dans notre rendez-vous jardin.
Alors j'ai un demi-coup de cœur pour, on parlait d'arbres fruitiers avec les pruniers, pour le livre de Jean-Marie Lespinasse et Daniel de Pierre-Martin, Des arbres fruitiers dans mon jardin, chez Rouergue. C'est un livre dont le contenu est intéressant parce que ce sont des vrais experts qui l'ont écrit. Mais alors, la mise en page, on dirait que c'est les années début 70. Les dessins sont pitoyables. Des dessins de CM2, je pense qu'on peut quand même faire beaucoup mieux pour un livre qui est quand même vendu 22 euros. Bon, le contenu, oui.
Mais c'est la forme qui est pas bonne.
Non.
D'accord.
Donc désolé. En revanche, un vrai coup de cœur pour Identifier arbres et arbustes en toute saison de Rita Luder, c'est chez Delachaux et Niessé. C'est dans la fameuse collection des guides Delachaux. C'est toujours remarquable. Il y a une iconographie invraisemblable pour reconnaître des arbres et des arbustes que l'on rencontre régulièrement autour de nous, mais avec des photos de tout. Vous avez tous les fruits, tous les types de fruits, toutes les bourgeons, etc. Donc c'est vraiment tout à fait extraordinaire. C'est un travail qui doit lui demander 40 ans pour arriver à faire ça. Ça vaut 34,90, mais ça les vaut bien. Donc Identifier arbres et arbustes en toute saison chez Delachaux et Niessé.
Patrick, on sera là samedi prochain, 6h-7h sur RMC.
Avec plaisir, je vous embrasse toutes les jardinières. Continuez le jardinage, ma petite jardinière aussi et ma petite perle. Et je dis bonjour monsieur Christian Pesset.
Eh bien bonjour monsieur Patrick Mulan.
La maison dans un instant.
Monsieur Sorel aussi. Hein.
Oui, bon. Quand même, monsieur Christian. Avec tout à l'heure, un mot sur la rénovation globale de la maison, d'autant qu'il y a eu pas mal d'actualités cette semaine sur ce sujet.
On va voir que c'est vraiment l'objectif qu'il faut poursuivre.
Voilà. Le photovoltaïque, ça sera notre gros dossier de ce samedi.
Voilà, avec en plus une expérience de production collective et d'autoconsommation, c'est très intéressant. Je pense que c'est une grande part de l'avenir du photovoltaïque.
Voilà, donc en gros, on va parler rénovation de la maison avec toutes les annonces qui ont été faites et de photovoltaïque. Voilà. Si vous avez des questions sur ces sujets, n'hésitez pas, dès maintenant, 3216 ou l'appli RMC Direct Studio.
Et puis le président de la Fédération française du bâtiment qui nous fera le plaisir de répondre au téléphone, donc pour
oui, pour revenir sur ce plan de rénovation. Voilà, c'est dans un instant, après la météo et les infos de 7h, à tout de suite.